J'ai eu la chance de, je crois, d'être le premier passager sur la ligne Casa-Dakar. C'était en 1929 et à l'époque, la ligne partait de Toulouse. Alors il y avait deux tronçons dans la ligne. Le premier était Paris-Casablanca qui avait déjà été exploité depuis 2 ou 3 ans et qui acceptait des passagers, et un autre tronçon qui avait été ouvert peu de temps auparavant qui était Casablanca-Dakar et qui ne transportait que du courrier. Nous sommes partis de Casa un matin et les étapes étaient Agadir, Cap-Juby, enclave espagnole, dans le Rio de Oro, Cap-Juby, Villa Cisneros, qui était toujours dans le Rio de Oro, puis alors Villa Cisneros en Mauritanie, et de Mauritanie à Dakar. Dans l'avion, qui était alors un des avions tout nouveaux de commerciaux, et qui était de la TECOR 25, de la T25, et qui remplaçait les Briguet 14, qui eux étaient des appareils de la guerre de 14-18, parce que le Briguet 14 était beaucoup moins sûr que le la T25. C'était de vieux appareils qui avaient été rafistolés, qui avaient été maintenus par des équipes de mécanos de génie, dévoués à leurs pilotes, dévoués à leurs zinc qui bricolait merveilleusement, mais il n'était tout de même pas assez sûr pour faire le vol tout seul, c'est-à-dire qu'un deuxième Briguet 14 les accompagnait toujours au cas où il y aurait une panne, et alors l'avion accompagnateur se posait, prenait l'équipage et le courrier et continuait le vol. Alors, il y avait le pilote, Émile l'écrivain, un ingénieur de l'aéropostale qui s'appelait Ahmed, un interprète, parce qu'on envisageait toujours la possibilité d'atterrissage forcé dans les pays insoumis, et le chef des transmissions, parce qu'on commençait à installer, on commençait seulement à installer la radio à bord, Edouard Serre. Notre première évasion avait été parfaite, et puis nous sommes partis pour Cap-Juby. Jusqu'à Cap-Juby, les choses ont marché pas trop mal. Nous sommes posés là, et quand nous sommes descendus, le pilote et l'interprète, nous avons vu qu'ils faisaient un drôle de visage. L'air était trop chaud, il y avait des particules de sable dans l'air. L'écrivain a pressé, bien qu'il ait pas beaucoup parlé avec les mécanos qui étaient là et avec lesquels il était le seul lien entre le monde extérieur. Il leur apportait toujours des bonbons, des cigarettes, de Cap-Juby, je pense qu'il faut le dire, parce que c'était une station espagnole où il n'y avait que des militaires, entouré de murailles parce qu'on avait peur d'attaques de nomades sans arrêt. C'était d'une tristesse mortelle, et les mécanos qui étaient là avaient une vie terrible. Mais le passage une fois par semaine de l'avion postal était pour eux la récompense, et l'écrivain faisait tout ce qu'il pouvait pour marquer le coup, rigoler avec eux, leur raconter des histoires. Mais là, il a pressé le mouvement vite vite. Alors j'ai demandé qu'est-ce qu'il y a. Il m'a dit: j'ai peur d'avoir raison, mais c'est le vent de sable. Et il faut, on a le courrier, il faut quand même tenter le coup, il faut partir le plus vite possible. Et au moment où nous sommes remontés dans l'avion, je me rappelle, il y avait comme une pluie de... Je ne savais pas ce que c'était, des libellules du désert qui étaient en train de crever à cause du vent de sable. Et nous sommes partis. Et au bout d'une demi-heure, 40 minutes de vol, on ne voyait déjà presque plus rien. Comme il n'y avait pas de radio, ni aucun moyen de guidage tel qu'on les a aujourd'hui, on peut voler à l'aveugle, tout dépendait de l'adresse et du flair du pilote. Alors, d'un côté, il y avait les falaises de la côte, et de l'autre côté, il y avait l'océan Atlantique. Et peu à peu, la marge de visibilité s'est réduite. Tout à coup, je me suis aperçu qu'on ne voyait même pas le bout des ailes. Ça a duré 2 heures. 2 heures où j'ai eu assez souvent peur dans ma vie, mais là, c'était une angoisse affreuse. Tantôt, on était à 1 mètre au-dessus de la mer, qu'on voyait seulement à ce moment-là, et on risquait de se fracasser. Alors, il donnait un coup de volant sur la gauche et on voyait surgir les falaises qui dominaient l'avion contre lesquelles on pouvait aussi s'écraser. Et dans ce zigzag, lui-même, il avait le visage, il n'y avait pas de protection au poste de pilotage, c'était en plein air. Il avait le visage jaune de sable. Quand je me retournais vers mes compagnons, c'était la même. Et je voyais dans les yeux de Serre, qui lui avait survolé ces endroits, et c'est là où il avait été fait prisonnier, l'angoisse d'un homme qui se dit, ça va recommencer, on va se tuer, ou je vais être pris de nouveau. Bref, raconter ça, c'est très difficile, mais les passages de l'espoir, de l'angoisse, et puis tout à coup, je dis les choses comme elles sont, il y a un moment, on se dit, on devient fataliste. Est-ce la proximité des morts, des musulmans, et je me suis dit, eh bien. Et puis le visage de l'écrivain, du pilote, qui luttait, qui lui, je le sentais, avait la volonté absolue d'arriver. Il y a une espèce de suspension de sentiment, et tout à coup, on sort dans cette purée jaune, je ne sais pas ce qu'il a vu, il m'a dit, on y est. Et puis peu à peu, à travers ce brouillard infernal, quelque chose s'est éclairci, un semblant de piste, et on s'est posé, et c'était Villa Cisneros. C'est bien, quand je suis descendu, j'ai eu beaucoup d'aventures dans ma vie, comme pas mal de gens, mais c'est l'instant, je crois, de bonheur physique, viscéral, le plus grand, de se sentir les pieds sur la terre et sauver.